Je ne vois pas l'Apocalypse ce soir, puisqu'on est dans la fête de la Pentecôte. Si vous parlez plutôt des dons du Saint-Esprit. Et avant, je voulais simplement vous dire de remercier le Seigneur et la Vierge Marie pour ces jours, ces 3 jours passés à Paris, qui ont été des jours de grâce pour nous, pour les familles de nos frères et pour nos amis. Je crois qu'il faut comprendre, même si de fait ça demande pas mal de travail pour les organisateurs. Je tiens à les remercier, parce que c'est un gros travail, c'est évident, pour les frères et les sœurs. Mais je crois que c'est un travail qui, au point de vue apostolique, a tout de suite, j'allais dire, un résultat très profond, un petit peu comme le pèlerinage de Lourdes. D'une autre façon, c'est tout à fait différent. Et c'est comme un témoignage de toute la communauté par rapport aux amis et aux familles. Vous vous souvenez comment au début, peut-être que vous n'étiez peut-être pas encore là, comment au début, quand on a décidé de faire ces professions, ces prises d'amis à Paray-le-Monial, c'était très directement cette idée qu'aujourd'hui, dans beaucoup de nos familles, il y a des frères, des sœurs qui ne pratiquent plus ou qui n'ont jamais pratiqué. Il y a des parents qui aussi ne pratiquent plus. Quelquefois n'ont pas reçu du tout la même grâce. Quand ils viennent simplement au couvent, quand ils viennent ici, c'est très bien, c'est à titre familial, vous comprenez bien. On se retrouve, ils voient leur fils, leur fille, mais ils assistent à l'office pour faire plaisir. S'ils le jugent bon, s'ils le jugent moins bon, ils se promènent dehors pendant ce temps-là. Et puis, l'action apostolique est très très réduite. Or, de fait, selon l'ordo caritatis, selon l'ordre de charité auquel nous devons être attentifs, nous n'avons pas le droit de ne pas être attentif à l'ordo caritatis. Selon l'ordre de charité, tous ceux qui ont une proximité de la chair et du sang, nos parents, nos frères, ou une proximité affective, nos amis, doivent être pour nous les premiers auxquels notre témoignage apostolique doit s'adresser. On doit être attentif à ça. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, on fera à la Pentecôte une sorte de grande retraite familiale, souple au point de vue du silence, parce que c'est évidemment pas remarquable au point de vue du silence, mais quand ça dure pas beaucoup, ces 3 jours, ça fait une détente. Ça peut être une détente aussi, mais c'est quand même 3 jours de retraite. Parce qu'il y a une prière commune, il y a des offices longs, il y a des prédications, on n'a pas beaucoup de temps à perdre. Et puis l'exposition du Saint-Sacrement, pour ceux qui le peuvent et qui le désirent. Et je suis toujours extrêmement frappé, moi, de voir combien ça touche les parents et les amis tout le temps. J'ai persuadé que pour les pères qui ont confessé également, ils s'aperçoivent de cela, qu'il y a un climat de grâce assez exceptionnel. La journée d'hier, par exemple, a été sûrement une journée de très grande grâce, très forte. Ce matin aussi, d'une autre manière. Puis samedi, c'est la préparation. Je crois que c'est bon dans le sens apostolique, dans le sens divin. C'est pour ça que je crois que nous devons faire cet effort, même si ça coûte un peu. C'est vrai, ça coûte toujours, parce que ça nous déloge. Et c'est toujours dérangeant d'être délogé. Mais je crois que vraiment, pour l'Église, pour nos familles, c'est bon. Et le curé de Paré, qui est merveilleux, qui est un homme qui nous a accueillis avec beaucoup, beaucoup d'affection, me l'a dit ce soir en partant. Il m'a dit combien ce passage, ça fait du bien. Il m'a dit, même pour moi, vous savez, ça fait du bien. Parce qu'on sent qu'il y a une prière vraie, profonde. Alors, je dis ça parce que forcément, vous n'avez pas les mêmes échos que je puis avoir. Et je crois que c'est important de comprendre qu'il y a comme un témoignage de l'unité profonde de notre famille religieuse. L'unité des frères et des sœurs. Il n'y a pas tellement de moments où il y a ce témoignage. Ici, c'est sûr, mais il est même partiel ici, puisque Saint Jodard n'est pas là, que nos sœurs contemplatives ne sont pas là, et c'est la même chose que je peux dire pour Saint Jodard, Rimond n'est pas là. Alors il y a bien les ordinations, c'est sûr, mais les ordinations, je dirais, c'est orienté très fort vers le sacerdoce, qui est très beau, ou le diaconat. Là, c'est la famille religieuse, dans ce qu'elle a d'intime, dans ce qu'elle a de grand. Point de vue de Dieu, il faut bien se dire que la profession perpétuelle, faite officiellement au cours d'une messe, représente un sommet dans l'Église, comme témoignage. C'est un témoignage plus grand que l'ordination. Il ne faut pas l'oublier. Un témoignage plus intime et plus grand. C'est comme si on assistait, si vous voulez, à des martyrs. Il ne faut pas trop y croire, hein, quand on l'a fait. Mais c'est quand même comme cela. Moi, je le vis comme ça. Je me dis que ceux qui font profession, ben, ils sont quand même martyrs, ils ont la tête coupée. Et pour l'Église, c'est très grand. Et comme d'habitude, vous voyez, chez des religieuses, ça se fait forcément plus qu'on ne goûte. Pas beaucoup de témoignages un peu universels. Et c'est ça qui impressionne. C'est impressionnant d'en avoir un, mais multiplié par 9. Et multiplier ça au cœur d'une famille religieuse. Et multiplier ça dans toute la cérémonie de cette force que ça représente. C'est quand même une des choses les plus grandes, comme témoignage. Comme aujourd'hui, on est très sensible au témoignage. Nous, c'est pas tellement notre grâce, hein, de demander à la dernière qui est entrée, chez les sœurs, hein, par exemple, de venir témoigner ce soir de ce qu'elle a vécu, pourquoi elle est entrée, quelle a été la grâce particulière par laquelle elle est entrée. Non, c'est pas tellement notre grâce, vous voyez. Ne faisons pas non plus pour les frères. Quand ils entrent, de temps en temps, on aurait peut-être envie un petit peu de dire à tel, tel, surtout quand ils entrent jeunes, ils n'ont pas grand-chose à dire. Massacre des saints innocents, c'est facile. C'est Marie qui les prend dans leur cœur, dans le silence. Quand c'est plus âgé, c'est des massacres de gens qui ont lutté avant d'avoir la tête coupée. Ils ont peut-être été plusieurs fois dans le fossé et Dieu les a relevés. Alors à ce moment-là, ce serait très intéressant d'entendre leur témoignage. Ce n'est pas la grâce que Dieu nous demande. Mais je crois que Dieu nous demande ce témoignage-là. Et c'est beau, ça. Et c'est grand. Parce que ça représente un acte héroïque, une mission spéciale de l'Esprit-Saint. Celui qui prononce ses vœux, et surtout ses vœux perpétuels, ne peut les faire que sous une motion particulière de l'Esprit-Saint. Alors je comprends que ça fait trembler, mais j'aime de rappeler cet exemple. Je l'ai rappelé l'autre jour, du reste, parce que je le trouve tellement beau. De cette personne que je connais bien, du reste, qui à ce moment-là avait 20-22 ans, qui aimait voyager seul, qui aimait les aigles. Puis devant l'aigle qui vient en point de ses petits, la frayeur. Je comprends qu'on peut avoir peur d'une mission de l'Esprit Saint. Ça explique la frousse qu'on peut avoir de faire des vœux. Je comprends très bien. Plus facile, oui, c'est plus facile de dire à quelqu'un qui est proche de nous qu'on l'aime. C'est plus facile. Dire à Dieu qu'on l'aime, c'est cru, hein, c'est héroïque. Parce que s'accepter d'être complètement délogé de soi. Parce que Dieu nous prend au mot. Hein. Vous ne pouvez pas dire à Dieu, ah, ça me... j'ai été forcé de le dire. La bonne blague vous dit ça après pour le besoin de la cause. Quand l'aigle vient, on n'est pas forcé. On va au-devant. La fille du général Jephté. Les filles de généraux. Hein. La fille du général Jephté. Oui, bien, c'est dans l'écriture, ça, c'est un passage très beau. Premier moment des vœux. La fille, elle va au-devant, complètement inconsciente, sans aucune espèce d'importance, complètement inconsciente. Elle va au-devant. Et son père lui dit qu'il est obligé de l'offrir. Je crois que c'est ce qui se passe chaque fois. Notre père nous dit qu'il est obligé de nous offrir. Et on lui dit très très bien, merveilleux. Je sais bien qu'il y a d'autres actes héroïques, c'est pas le seul, c'est sûr. Mais avec le martyr, c'est un des rares actes héroïques officiels. Donc un témoignage. C'est pour ça que c'est si grand. Et c'est pour ça que c'est si impressionnant. Ben, je ne sais pas, mais je ne peux pas m'habituer. C'est impossible. Justement, ça me touche de façon particulière. Je ne peux pas m'habituer. Tellement c'est grand. Tellement on touche du doigt quelque chose qui est la foudre. Les éclairs, le tonnerre. est présent pour nous. Et qui est présent pour celui qui fait ses voeux. C'est bien, parce que il est fait entre mes mains. Alors je sens le court-circuit. Je sens la foudre qui passe merveilleusement. C'est étonnant. Comme c'est quelque chose qui nous fait toucher l'attraction du cœur de Jésus. C'est pour ça qu'on doit remercier Dieu. On doit remercier la Vierge Marie de cela. Elle a permis cela. C'est vrai, la première fois qu'on était à Paris, on ne se rendait pas très bien compte. Puis cette petite confirmation de Marthe, n'abandonnez jamais Paris. Et oui, on y va pour ce qu'il y a de plus grand. C'est très beau, la profession perpétuelle au couvent. C'est très beau, individuellement, c'est très beau. Il ne faut surtout pas les supprimer. Mais il y a une grandeur apparaît dans cette basilique si merveilleuse. C'est quand même, oui, on touche un grand sommet qu'il faut maintenir dans notre vie, puisque nos voeux, nous les refaisons tous les jours en disant « me voici ». C'est vrai, tous les jours. Je tenais à vous dire ça d'abord pour remercier tous ceux qui s'étaient dévoués et puis aussi pour faire que l'unité de notre famille religieuse ne cesse de croître et que ces jours passés à Paris sont des jours de très grande grâce pour l'unité. Voyez, les petites secousses ou les grandes secousses, c'est les attaques du démon. On sait très bien que le démon ne peut pas supporter la communauté. C'est bien évident, puisque c'est Marie qui l'a voulu. Donc c'est son œuvre. Le démon ne peut pas la supporter. C'est dans ce sens qu'on doit être très vigilant et qu'on ne doit pas livrer les secrets et qu'on doit être un peu farouche. Et c'est pas commode d'être farouche quand on est jeune. C'est pas commode d'être vigilant tous les jours. Et pourtant il le faut parce que la lutte est forte. Quand le démon voit que nos sœurs apostoliques augmentent et qu'à Paris, on en a vu comme ça qui venaient, alors qu'il faut vite grandir le noviciat, quand on vous avait éclaté, ils ont demandé des chambres chez les frères, et puis les frères seront obligés de retourner à Saint-Jodard pour laisser la place aux sœurs. C'est vrai, on sent très bien qu'il y a une grâce de Dieu. C'est beau, c'est grand. Il faut continuer de prier. Parce que nous avons besoin de nos sœurs apostoliques. Ça, c'est sûr. Comme nos sœurs contemplatives. Nous en avons besoin. Il y a un grand besoin. Je suis persuadé que si dans chaque prieuré, à côté de chaque prieuré, il y avait un petit prieuré de sœurs, il y aurait beaucoup de choses qui pourraient se faire mieux, qui se feraient avec, j'allais dire, une profondeur, une sainte rivalité, quoi. Vous voyez bien. Les sœurs rappellent aux frères qu'ils doivent quand même être des frères de Saint-Jean. Et les frères rappellent aux sœurs aussi ça. Donc il y a une sainte rivalité. C'est pour ça qu'on est très heureux. faut demander au Seigneur que ça continue. Les dons du Saint-Esprit, selon la grande théologie de Saint-Augustin. Saint-Augustin qui a fait ça le premier. Et c'est très beau. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de théologiens disent « Oh non !» Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils voient ça de l'extérieur. Selon Saint-Augustin, et Saint-Thomas l'a repris, mais c'est quand même Saint-Augustin qui l'a dit le premier, il y a un parallélisme étonnant entre les dons du Saint-Esprit et les béatitudes évangéliques. Et je crois qu'on doit le garder dans son cœur, ça. Et on doit y revenir souvent. Vous voyez, c'est le passage entre la théologie scientifique et la théologie mystique. C'est très curieux. On le sent très bien. Le théologien de théologie scientifique est toujours un peu gêné. Et le théologien de théologie mystique, lui, comprend que l'action de l'Esprit Saint en nous fleurit dans les béatitudes. Quand on est bien heureux, on est une fleur. Pivoine. Petite violette. Et c'est vrai. Puis quelquefois des lys. Quelquefois de ces fleurs extraordinaires, des orchidées. Au novicia. La maîtresse de novice me dit, oh mon père, au novicia, j'ai une orchidée. Admire. Surtout ne le dites pas. Non. C'est extraordinaire. Intérieur, pas extérieur. Parce qu'à l'extérieur, ça se fane. Tandis qu'un tiers don, c'est éternel. C'est vrai, c'est extraordinaire de voir ça. Alors, les béatitudes sont les fleurs des dons du Saint-Esprit. Et on comprend mieux le don quand on regarde la fleur. Pour nous, au niveau théologie mystique, on regarde la fleur et on remonte à la source. Tandis qu'en théologie scientifique, on regarde la source et on conclut la fleur. Mais bien, c'est le passage des deux. Alors, regardons les béatitudes évangéliques. Bienheureux les pauvres. Saint Augustin naît le don de crainte. La crainte fleurit dans la pauvreté spirituelle. La crainte chaste. Je veux dire, la crainte chaste, la crainte aimante, pas la crainte servile. Ça, c'est ce que saint Augustin aime développer. Il le développe d'une façon remarquable, revenant. Parce qu'il sait très bien, on l'a entendu au réfectoire, hein, en lisant le commentaire de saint Augustin de la première épître de saint Jean. C'est un grand livre pour nous, ça. C'est un grand livre qu'il faut tous connaître progressivement. C'est pas suffisant de l'entendre au réfectoire, hein. Il faut le lire et le relire. C'est tellement beau. Et saint Augustin, là, découvre la différence entre la crainte servile. On connaît tous la crainte servile. Quand on dit à un frère qui va dire « Attention, il y a des gendarmes le samedi avant la Pentecôte. » Et les gendarmes sont dans tous les coins. On les a tous vus, hein. Si vous n'avez pas vu, dangereux, ça va vous être passé très vite. Et que lui, vous a vu. Crainte servile, c'est la crainte du gendarme. Vous avez peur d'une amende. Spirituellement, vous avez peur de l'enfer. Ça vous rend sage, vous savez, d'avoir peur de l'enfer. Hein. C'est quand même bête, hein. Cette bêtise. Une journée de joie et de jouissance, et puis éternellement l'enfer. Pas drôle. Mais le gros prédicateur, hein. Prédicateur de... des retraites, des journées de reprise pour qu'une paroisse reprenne un peu vigueur. Depuis qu'on ne prêche plus ça, ça dégringole en dessous du niveau de la mer. Parce qu'on ne rappelle plus ça. Les gens ont besoin de ça. Le point de départ de la sagesse, c'est la crainte. Absolument besoin de ça. Mais nous tous, vous savez, on hésite deux fois. Deux fois à dire, ouf, moi, ça pue, ça me dégage. Non, on en est tous un peu là. On a besoin de recevoir quelques coups de fouet. Parce que c'est ça, la crainte servile. La crainte chaste, alors ça, c'est à l'intérieur du noviciat que ça pousse. On est entré quelquefois par crainte servile. Drôle de vocation, mais qu'un fois, par crainte servile. On dit, je ne peux pas rester dans le monde, c'est impossible. On disait que dans les trappes, je n'ai encore jamais prêché dans une trappe, j'espère vous prêcher dans les trappes. C'est très extraordinaire. Ça fait penser à la Légion étrangère. Avec toutes les transpositions, hein, toutes les transpositions. C'est extraordinaire. Et c'est beau. Et c'est grand. Quand un trappiste vous dit, il n'y a pas que ça, hein, dans les trappes, mais il y en a. Quand un trappiste dit, je suis là depuis 30 ans, il croit que ce n'est pas la vocation. Et je suis là parce que je sais, je ne peux me sauver qu'ici. Autrement, je serai un brigand. Autrement, je serai une noceur. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un poumon d'acier. Ça m'a été dit, j'ai entendu ça. C'est pas... J'ai pas envie de dire, vous n'avez pas la vocation, sortez. Non, pas du tout. Pour tenir. Autrement, je ne tiendrai pas. Il faut qu'il y ait ça dans l'église. C'est nécessaire. Un ordre apostolique ne peut pas. Mais une trappe peut. Alors, je me souviens cet abbé qui disait, oh, j'aime pas cette réputation qu'on donne aux trappes. Je dis, mais vos pères, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est un héroïsme étonnant que vous permettez. Où est-ce qu'ils iraient autrement ? Nulle part. Il faut qu'il y ait des moines suffisamment donnés, suffisamment forts pour accepter de porter des pauvres. Justement le poumon d'acier. C'est Seigneur, j'accepte ça comme vocation. Ça me permet de... Vous savez, comme il y a des maisons religieuses où on reçoit les aveugles, et à côté des aveugles, il y en a une qui voit. Alors, celle qui voit entre pour adopter une aveugle. C'est magnifique. C'est ça, je trouve ça très très beau. Comme... chez les dominicaines, les repentis de Béthanie. Les religieuses acceptent pour recevoir celles qui sortent des prisons. Et on ne sait pas, hein, il y a un secret absolu. La maîtresse de novice, la prieure le sait. Parce qu'il se passe quelquefois des petites choses assez particulières. On est bien. Les habitués hein, à prendre du vin. Et quand ça devient trop fort, alors la nuit, donc il faut avoir des gardes. Les sœurs le savent. C'est pas gênant. Après tout. On sait que cette sœur, oui, elle a fait de la prison. On le sait pas une fois qu'elle est entrée. On le sait plus. Au début. Forcément, il faut bien faire attention. C'est héroïque, vous savez ça. J'ai beaucoup prêché à Béthanie. Et ça, c'est grand de voir ça. C'est très beau. C'est pas la vocation de Saint-Jean. Sorti de prison. Mais Saint-Jean doit exercer sa miséricorde jusqu'au bout d'une autre manière. D'une autre manière. On doit pouvoir porter divinement ceux et celles aujourd'hui. Ça se présente. Et ça se présentera de plus en plus. L'autre jour, j'en ai parlé au père Philippe-Marie. Parce qu'il se présente actuellement certains camps comme ça. Alors évidemment, si on veut avoir une petite vie bourgeoise, dire non, 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 ici ce n'est pas notre spécialité. Ici, on ne reçoit que des gens bien fournés. Je crois que si on vit la dernière semaine, on doit pouvoir recevoir tout ce que Marie nous envoie. Je sais, ça exige entre nous une unité et une confiance beaucoup plus grande. Alors peut-être qu'on n'a pas encore cette unité de confiance. Parce que il peut y avoir la brebis galeuse qui est en train de derrière. Et c'est un problème qui se pose. Vous voyez le ton de crainte, hein? Le ton de crainte, les pauvres. C'est très important de comprendre qu'on fait un vœu de pauvreté, individuellement et personnellement. Que ce vœu de pauvreté doit être communautaire. Nous avons compris, au début, revenant de Suisse, quand on a vu qu'ici, ce ne serait pas assez grand. Et heureusement, vous voyez, tout le monde n'aurait pas pu recevoir les sœurs. On a tout de suite engagé un autre couvent. On a frappé à la porte de certains grands couvents où il y avait plus qui étaient des gros noviciats, où il n'y avait plus une seule personne. Alors on a vu celui qui se chargeait de cette question en demandant est-ce que on ne pourrait pas venir ici. Alors le procureur général a dit, c'est à vendre. Est-ce qu'on ne pourrait pas quand même quelques années y vivre? Ah non, non, non. C'est à vendre, c'est le bon moment de le vendre actuellement. Alors, il a poussé un peu plus loin, il a dit, mais vous avez construit ça avec des biens d'église. Ça vous appartient pas. Ah oui, ça nous appartient, oui. Et là, je me souviens très bien, quand le frère en question est venu, il était tout blême. Il dit, s'affolant, on fait un vœu de pauvreté, on n'est pas pauvre. Comme communautairement. Et c'est vrai, on s'installe si vite. Alors on a voulu, à partir de là, remédier à ça. C'est pour ça qu'on a nos Saint-Joseph. On nous a dit que c'était de la folie. Les conseils qu'on nous donnait, regardez, dans le conseil, surtout pas de laïque au point de vue de l'administration, surtout pas de laïque. Ils ne peuvent pas comprendre. On ne dit pas du tout. Nous voulons faire l'inverse. Nous voulons tout remettre entre les mains des laïcs. Pour être pauvres, d'une façon commune, communautairement. Alors, je réfléchis. Il y a la même pauvreté spirituelle, vous voyez. Individuellement, on recevrait bien, pauvre. C'est une histoire du Père de Haut, ça. Que ma mère m'a toujours raconté pour montrer ce qu'il était. Jeune prêtre, il avait 23 ans. Parce qu'à cet âge-là, il n'y avait pas de limite. 23 ans. Alors à ce moment-là, il n'y avait pas d'auto. On était avec sa carriole et puis le cheval. Parti dans la campagne, quoi. Il revenait, je ne sais pas trop, il avait vu des amis ou des personnes qu'il connaissait. Et puis en venant, il entend gémir quelqu'un dans le fossé. Tu vois, il entend gémir. Alors il s'arrête, puis s'aperçoit que c'était un homme qui était là, dans le fossé, complètement ivre. C'était l'hiver, c'était dans le nord, donc. Passer la nuit là-dedans, il y a des chances que le matin, parce que le vin ça chauffe un certain temps, mais après... ouais, je dis pas qu'il y a le dégel, quelque chose de semblable. Alors, ni une ni deux, il le prend par le corps. Puis il le met dans sa carriole. Puis il revient. Il revenait la nuit. Chez ses parents. La pauvreté communautaire, familiale, c'est beaucoup plus difficile. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, très bien, j'ai ma chambre. Le met dans sa chambre. Puis lui, dormir dans le salon. Très bien, là. Puis le lendemain matin, vous comprenez ? J'allais dire ça. Alors évidemment, on dit, mais c'est de la folie de faire ça. Ramasser, mais ils sont fous. Alors j'ai dit, non, c'est l'évangile. Si vous voulez plus que je le fasse, je ne viendrai plus loger ici. Alors les parents ont compris qu'ils étaient bien obligés d'accepter la folie de leur fils. Il n'était pas encore dominicain à ce moment-là. Il était prêtre diocésain. Et au fond, c'est ça qu'on doit comprendre. Au fond, chacun d'entre nous, je crois que nous avons un certain héroïsme et une certaine folie de pauvreté, je crois. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de façon commune, c'est-à-dire en communauté. Beaucoup plus difficile. Il faut y penser. Avec le don de crainte, bienheureux les pauvres. Alors comprenons, le don de crainte s'enracine dans l'exercice de la vertu d'espérance. Voyez, le don de crainte a quelque chose de théologal. Il permet l'exercice de la vertu d'espérance, d'avoir quelque chose de tout à fait divin. Parce que il nous fait comprendre notre pauvreté. Quand on comprend sa pauvreté, on accepte de s'appuyer. Quelle est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé. Ça, c'est l'espérance toute divine, parle-en de crainte, appuyée sur son bien-aimé. C'est merveilleux, le don de crainte. Ça nous permet de nous appuyer sur Jésus, de nous appuyer sur Marie, de nous appuyer sur nos frères. Ça permet de nous appuyer sur nos frères, parce que ça creuse en nous une pauvreté. C'est qu'on n'aime pas beaucoup de demander à son frère, dans la charité, de nous aider. Il y a des moments de révolte, notre petite autonomie, notre profonde autonomie. On n'aime pas tellement d'avouer qu'on ne peut pas tout seul. Alors il n'y a rien de honteux. C'est Dieu qui veut creuser en nous la pauvreté. On a besoin de son frère. On a besoin d'une charité fraternelle plus forte, plus intense. Une charité fraternelle qui s'enracine dans une amitié. Et donc, qui exige de nous une certaine dépendance, c'est vrai. Le don de crainte nous fait accepter divinement ces dépendances. Pour vivre dans la pauvreté. Vous voyez, la pauvreté à l'égard de Dieu, c'est relativement facile. La pauvreté à l'égard de nos frères, c'est pas commode. Or, il y a toujours un domaine sur lequel on est pauvre. Toujours. Mais pauvre de fait, qui permet d'exercer une pauvreté spirituelle intérieure. Et la pauvreté intérieure, elle peut s'exercer sur tout. Elle nous saisit radicalement. Et elle s'exerce sur tout. L'espérance et aussi la tempérance. Et les deux, ça se tient les deux. Voyez, au fond, le don de crainte, c'est un don affectif, comme dit saint Thomas. Et c'est un don affectif, ça purifie notre affectivité. Notre affectivité elle s'étend du concupiscible jusqu'à l'espérance divine. C'est extraordinaire, ça. Le concupiscible, c'est l'affectivité tout à fait fondamentale. Le concupiscible à l'égard du boire et du manger. Le concupiscible à l'égard du chocolat. Le concupiscible à l'égard du vin. La vertu endigue. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut le don de crainte. À un certain moment, il faut le don de crainte. Ou à l'égard du tabac, vous voyez, il y a du concupiscible. La cigarette. Il y a des gens qui ne peuvent pas se passer de cigarette. C'est vrai. Alors, c'est le plus grand obstacle pour la vie religieuse. Alors il faut que le don de crainte s'y mette un bon coup pour tout dépasser. Alors vous dites à vos voisins et voisines, puisqu'aujourd'hui c'est des deux côtés, bon. Alors aux voisins et aux voisines, vous dites, je serai insupportable. Je lutte, ne vous inquiétez pas. Alors, on appelle le don de crainte. Et le don de crainte est là pour mettre une victoire d'amour qui est plus facile. C'est très très beau, le don de crainte. Cette crainte aimante. Vous voyez, c'est l'éducation de l'Esprit Saint pour nous donner une certaine vulnérabilité divine. C'est l'Esprit Saint qui affine par le don de crainte. Il affine. On est tous assez grossiers par rapport à l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint affine. Veni, pater, pauperum. Venez, Père des pauvres. C'est celle qu'on doit toujours, toujours reprendre. Venez, Père des pauvres. Il vient aux pauvres et il nous appauvrit toujours plus. Le don de crainte, le don de force. Alors, bienheureux, ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est le don de force. La force est encore un don affectif. Vous voyez, la crainte, c'est le concupiscible. La force, c'est l'irascible. Alors, on ne dit jamais que la force vient permettre l'exercice de l'espérance. Pourtant, je crois que oui, aussi, pour le martyr. Et donc, pour la vie religieuse. Il faut beaucoup de force pour mener de vie religieuse, pour ne jamais s'arrêter. C'est l'espérance, hein. L'espérance divine avec le don de force. Nous continuerons.